Jésus au centre, une compilation. En tant que chrétiens, nous ambitionnons de prendre modèle sur Jésus. Nous voulons plaire à Dieu, ce qui signifie que nous nous comportons d'une manière qui l'honore, qui se fonde sur la connaissance de sa parole, tout en ayant conscience de sa présence constante en nous et en la révérant. En bref, nous nous efforçons de vivre d'une manière qui lui plaise. La question qui vient à l'esprit est, pratiquement, comment faisons-nous? Quelles mesures pouvons-nous prendre pour vivre dans l'attachement à Dieu? L'apôtre Paul écrivait à Timothée, un jeune homme qu'il guidait spirituellement, pour lui dire qu'il devait s'exercer à vivre dans l'attachement à Dieu et qu'il devait poursuivre et rechercher cette piété. Le mot grec que Paul emploie pour s'exercer est « gymnazo », qui nous a donné le mot « gymnase » en français, et qui signifie « s'exercer vigoureusement ». Autrement dit, Paul disait à Timothée de s'entraîner et de s'exercer à grandir dans la piété, c'est-à-dire dans l'attachement à Dieu. Se comporter d'une manière qui reflète la lumière et l'amour de Jésus aux autres, vivre en accord avec la volonté de Dieu, être à l'écoute du Saint-Esprit, faire des choix qui plaisent à Dieu, cultiver une relation étroite avec notre Créateur, tout cela demande des efforts de notre part. C'est ce que Paul voulait dire lorsqu'il disait à Timothée de s'exercer à la piété. Comment s'exerce-t-on à la piété? En s'appliquant à faire les choses qui nous mettent en situation de recevoir les bénédictions et la force de Dieu. En faisant ce qu'il faut pour régler notre attitude intérieure sur l'esprit, la parole et la volonté de Dieu. Vivre une vie centrée sur Dieu n'est pas quelque chose qui vient naturellement. Cela exige des efforts et un engagement total de notre part. Cela exige que nous grandissions spirituellement, ce qui contribuera à développer une telle vie. À mesure que notre foi mûrit, que nous nous approchons de Dieu et que nous vivons conformément à sa volonté, notre être intérieur est transformé, ce qui en retour se manifeste dans notre vie extérieure et nous aide à être centrés sur Dieu et davantage semblables au Christ. Il s'ensuit logiquement que si nous voulons ressembler à Jésus, nous voudrons suivre son exemple, notamment en ce qui concerne la communion et l'intimité avec son Père, et en faisant de notre mieux pour manifester l'amour et la compassion de Dieu aux autres. Dieu use de nombreux moyens pour nous faire grandir dans la foi chrétienne. Le premier de ces moyens, ce sont les gens, nos proches, notre conjoint, nos amis, nos collègues, nos maîtres, nos guides spirituels, et même les gens qui s'opposent à nous. Toutes ces personnes peuvent être des catalyseurs de changement dans notre vie. Les circonstances constituent un autre facteur de changement. Les problèmes auxquels nous faisons face, que ce soit des problèmes de santé ou financiers, la perte d'un emploi ou un nouvel emploi, un déménagement ou toute autre chose qui nécessite de grandir et de sortir de notre zone de confort. Dieu se sert de circonstances particulières pour apporter le changement et la maturité à notre porte. Lorsqu'il se sert de personnes et de circonstances pour nous faire grandir spirituellement, il utilise des influences extérieures qui échappent généralement à notre contrôle. Bien que nous ne maîtrisons que partiellement les influences et les circonstances extérieures qui nous rapprochent de Dieu, chacun d'entre nous peut décider d'agir en vue d'une transformation intérieure pour grandir spirituellement. La profondeur de notre communion avec Dieu, notre ouverture d'esprit à son influence, notre choix de faire sa volonté, notre engagement à grandir dans la foi, sont des choses qu'il incombe à chacun de décider personnellement. Peter Amsterdam. Une vie centrée sur le Christ. Que signifie avoir une vie centrée sur le Christ? Une vie centrée sur le Christ, ou christocentrique, peut se définir de la manière suivante. C'est une vie qui se focalise entièrement sur l'engagement envers Jésus-Christ, le Fils de Dieu, comme Seigneur et Sauveur. Une vie dont le seul but est de l'honorer et de le glorifier pour toujours. Le catéchisme de Westminster déclare « Quelle est la principale fin de l'homme ? Glorifier Dieu et jouir de lui pour toujours. » Centrer sa vie sur le Christ, c'est faire de lui le véritable centre de votre attention, de votre énergie, de votre temps et de vos pensées. Mais, direz-vous, comment puis-je centrer ma vie sur le Christ ? Vous lisez les Écritures, vous priez, vous vous concentrez sur les attributs de Dieu et sur l'œuvre rédemptrice de Jésus sur la croix. Tombez amoureux des psaumes. Acceptez le fait que vous échouerez, encore et encore, mais Dieu n'échouera pas. J'ai été frappé par les paroles d'une chanson que j'écoutais pendant que j'écrivais ces lignes. C'était « L'amour, c'est quand tout ton bonheur, ta tristesse, tes émotions dépendent de ceux d'une autre personne. » À la réflexion, je me dis que c'est vrai, du moins l'acte d'aimer. Je me suis dit que tout, notre bonheur, notre tristesse et nos émotions devraient dépendre de Dieu. Nos espérances, nos joies, nos peines devraient toutes être centrées sur le Christ, sur son identité et sur ce qu'il a fait quand il s'est sacrifié pour nous. Car enfin, qu'est-ce qui compte vraiment dans la vie ? Notre maison, nos voitures, nos appareils électroniques ? Pour bien répondre à cette question, voyons ce que Paul disait à l'église de Philippe. « Tout ce en quoi je pourrais me confier, je le considère comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut, afin de gagner le Christ. » Philippiens 3, verset 8. Chris Voltmer. Le vrai temple. Si nous voulons saisir pleinement ce que Jean veut dire lorsqu'il parle de Jésus incarnant l'amour de Dieu, le meilleur moyen d'y parvenir et de réfléchir à la façon dont Jean traite le thème du temple. Et pour bien comprendre, nous devons saisir toute l'importance du temple dans la mémoire et les écritures du peuple d'Israël. Commençons par la scène du temple la plus dramatique dans l'évangile de Jean. Lorsque Jésus entre dans le temple de Jérusalem, il en chasse les animaux et renverse les tables des changeurs de monnaie, perturbant ainsi l'organisation des sacrifices. Il ne s'agissait pas simplement de dénoncer le fait que les vendeurs d'animaux et les changeurs de monnaie transformaient la maison de son père en marché, bien que cela fût vrai. Comme Jésus le dit en Jean 2, verset 16, le point le plus important était que le temple était maintenant sous le coup des jugements de Dieu et qu'il allait être remplacé. Cela était déjà arrivé 5 siècles auparavant, à l'époque de Jérémie, et Jésus reprend à son compte les avertissements et la promesse de Jérémie. Mais cette fois-ci, ce ne serait pas un bâtiment de briques et de mortier qui remplacerait le temple. Le temple de Jérusalem allait être remplacé par un être humain. « Démolissez ce temple, leur répondit Jésus, et en 3 jours je le relèverai. » « Comment ? » répondirent les Juifs. Il a fallu 46 ans pour reconstruire le temple, et toi tu serais capable de le relever en 3 jours? Mais en parlant du temple, Jésus faisait allusion à son propre corps. Plus tard, lorsque Jésus fut ressuscité, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. En parlant du temple, Jésus faisait allusion à son propre corps. C'est là un des principaux indices que Jean nous livre sur le propos de son évangile, mais aussi de l'évangile dans sa totalité. Jésus est le véritable temple. Il est le lieu ultime et le moyen par lequel le Dieu vivant et créateur viendra vivre parmi son peuple, au cœur même de sa création. Il incarnera la présence vivante du vrai Dieu. Il sera, pour ainsi dire, l'amour de Dieu en chair et en os. De nos jours, de nombreux chrétiens se demandent pourquoi c'est aussi important. Beaucoup d'entre eux sont d'avis que l'on n'a pas besoin de bâtiments pour adorer Dieu, ce qui est vrai. Mais le fait est que pendant toute l'époque de l'Ancien Testament, la promesse ultime de Dieu n'était pas qu'un jour il enlèverait son peuple à la création actuelle pour qu'il puisse vivre avec lui ailleurs. La promesse ultime était qu'il viendrait vivre parmi eux. Voilà à quoi ressemble l'amour divin. N.T. Wright. Une prière pour mettre le Christ au centre de notre vie. Seigneur, aide-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit et de toutes mes forces. Apprends-moi à m'occuper des affaires de ton royaume, pas des miennes. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, je remets ma vie et mon temps entre tes mains. Tout ce que je te demande, c'est de me guider dans mon adoration et mon service pour ton royaume. Lorsque la journée sera terminée et que je passerai à autre chose, je prie pour que mon souvenir le plus intense soit de toi, de la proximité de ton amour, de la puissance de ta présence. Jésus, tu es celui qui est mort et qui m'a donné une raison de vivre et m'a montré comment vivre. Tu es celui qui a brisé les chaînes de la mort et le pouvoir de la tombe, quand tu as vaincu la mort, l'enfer et la tombe. Je te loue pour la formidable espérance qui demeure en moi, grâce à ta résurrection. Tu n'es plus mort, alors aide-moi à être vivant et animé d'une grande passion pour proclamer ton grand amour aux gens que je rencontre sur le chemin de la vie. Au fur et à mesure que la journée s'écoule, aide-moi à garder cette pensée présente à l'esprit. Cette journée n'est pas mienne, c'est ta journée. Que mes décisions et mes choix en témoignent, c'est une occasion qui m'est donnée de défendre ta cause et de parler aux autres de ton grand amour, mais aussi de ta grâce, de ta miséricorde et de ta bonté. Je sais que tu connais mes besoins avant même que je ne les formule, mais je demande parce que je suis ton enfant. Tu m'as donné l'espoir par la foi et des rêves comme promesse de mon avenir. Je te crois et je sais que ta main bienveillante est avec moi, pour moi et sur moi, pour ta gloire et pour mon bien. Que ta volonté soit faite dans ma vie aujourd'hui. Denis Langford.